7h18, on aborde assez régulièrement la problématique du don d'organes, la signature en arrière de la carte. On le dit pas assez comment c'est important de le faire, là, de prendre le temps juste de le signer pour s'assurer que si jamais il vous arrive quelque chose, vous puissiez peut-être servir à quelqu'un, sauver la vie de quelqu'un. Je pense que c'est une problématique qu'on doit aborder assez fréquemment. Sauf que, quand on pense à ça, justement, on pense à quelqu'un qui a un accident de la route, quelqu'un qui est d'un mort cérébral puis dont on va pouvoir prélever les organes pour sauver une autre personne. Mais le don vivant, là, évidemment, vous allez dire, je peux pas donner mon cœur quand je suis vivant. Oui, c'est sûr, il y a des organes que vous ne pouvez pas donner, c'est certain. Vous en avez juste un. On peut pas faire la greffe de n'importe quoi. Mais vous avez deux reins. Vous avez deux reins et c'est possible de vivre avec un seul rein, OK? Honnêtement, je comprends votre réaction déjà. Là. Ça se peut que vous frémissiez. Vous allez dire, mon Dieu, je ferais jamais ça. C'est une grosse opération. Perdre un rein, c'est quoi les conséquences? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver si je faisais ça? Sachez qu'il y a un investissement du gouvernement qui a été annoncé dernièrement au CHUM pour un programme québécois de dons vivants de reins. Donc, on va injecter de l'argent pour inciter les gens à le faire. C'est une problématique qui m'est connue. Et pour en jaser ce matin, on reçoit tout d'abord le président de l'Association des néphrologues du Québec, le Dr Robert Charbonneau, et également un couple de donneurs et de receveurs, Louise Rochette et Louis Trudel. Messieurs, dames, bonjour.
Bonjour.
Commencez avec Dr Charbonneau. D'abord, je vous ai parlé du don, le don vivant de rein en introduction. Ça se peut, ça, de vivre avec un rein, avec une qualité de vie qui a du bon sens?
Absolument. Bien entendu, comme vous disiez en introduction, on est habitué avec le don d'organes chez des gens qui sont malheureusement décédés. Mais oui, on peut donner de notre vivant un rein. Comme vous disiez, on a deux reins et on peut vivre très bien avec un seul rein. Les études, on a eu des inquiétudes au début, il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années, à savoir si c'était quelque chose qui pouvait mettre en danger la santé des donneurs. Mais non, on a quand même de la littérature scientifique aujourd'hui qui nous dit que c'est pas dangereux. Après une évaluation complète, si le candidat répond à certains critères, ben oui, il n'y a pas de danger. On peut très bien vivre avec un rein et donner un terrain à quelqu'un qui est près de nous ou même à d'autres personnes.
Est-ce que c'est, à votre avis, quelque chose que les gens connaissent bien comme option ou on est encore dans les balbutiements de ce type de don-là?
D'ailleurs, le programme gouvernemental qui a été annoncé vendredi dernier, cet aspect-là est très important de sensibilisation, d'information, et ça, on y souscrit totalement. C'est pas très connu, comme vous dites. C'est le don d'organes de personnes décédées, ça, il y a des campagnes, tout ça. Mais le fait de pouvoir donner un rein, c'est en général lorsqu'on est impliqué auprès de la famille, des gens qu'on connaît, où on apprend un peu l'existence de cette possibilité. Alors, oui, le but du programme, en premier lieu, c'est de faire de l'information puis de la sensibilisation.
Est-ce que vous voyez souvent des gens qui n'ont pas de lien avec, par exemple, la personne qui doit recevoir un rein en donner? Parce que je pense que je fais partie de la moyenne des ours, là, mais moi, comme ça, oups, j'ai besoin de me le faire démystifier parce que j'aurais l'impression de mettre ma santé en péril. Puis le côté émotif prendrait probablement le dessus si c'était quelqu'un autour de moi que j'apprécie qui est malade. Mais de là à le faire, j'aurais aussi beaucoup d'inquiétude.
C'est tout à fait normal et légitime. Hein? C'est effectivement, c'est plus qu'un don de sang. Hein? C'est plus qu'aller à Emma Québec donner de son sang. C'est de donner un rein. Donc, ça implique beaucoup de choses. Et la première inquiétude, c'est ça. Ben, se faire opérer, les conséquences à moyen ou à long terme de ça. C'est toutes des choses qui sont importantes. D'où l'importance d'avoir des équipes qui sont dédiées à ce programme pour pouvoir identifier les candidats, mais ensuite les informer puis prendre le temps avec eux de discuter de tous les aspects pour que tout le monde soit à l'aise avec ça. C'est d'une importance primordiale. Il faut que le donneur soit tout à fait à l'aise. Oui, on voit des gens, parfois, pas si souvent que ça, mais des gens pour un collègue de travail. C'est sûr que le plus souvent, ce qu'on voit, c'est des membres de la famille. Les gens sont impliqués émotivement, comme vous disiez, mais on voit aussi des collègues de travail, parfois, qui vont offrir un rein, ou même, parfois, c'est plus rare, mais des gens qui nous appellent et qui disent, moi, je serais prêt à donner un rein à quelqu'un.
Wow. Là, on est rendu à un niveau d'abnégation.
L'altruisme est incroyable.
C'est pas fréquent, mais ça arrive.
Le programme, c'est ce qui va permettre, finalement, de mettre en place des équipes, puis d'assurer que ce soit aussi accessible. Est-ce que ça va être accessible? Est-ce que ça va être couvert par la RAMQ, ce type de don-là?
Oui, ou... là, il y a deux aspects importants, effectivement, que vous soulevez. Tout d'abord, la campagne de sensibilisation va faire que les gens vont se présenter. D'ailleurs, depuis vendredi, à notre équipe de transplantation, le téléphone sonne plus. Et après votre émission, ça va être encore le cas aussi aujourd'hui,
tant mieux.
Je suis sûr. Alors, ça nous prend les ressources. Les équipes sont déjà en place. On fait déjà du don vivant. À Québec, au cours des dernières années, une quinzaine par année. Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et les ressources, les gens qui travaillent là-dedans sont déjà très occupés à d'autres aspects de la transplantation. Alors, on va avoir besoin de ressources pour accueillir les candidats potentiels, les évaluer. Il faut évaluer presque 4 candidats pour avoir un donneur. Alors ça, c'est un aspect. Et deuxièmement, ben, l'aspect financier, il faut falloir aussi, le donneur doit assumer certaines pertes de revenus, certaines dépenses. Il faut les aider à compenser si on veut que le programme soit un succès.
Certainement. Je vais me tourner vers notre couple de donneurs et receveurs, Louise Rochette et Louis Trudel. Vous êtes un couple ensemble depuis 40 ans, en passant. Oui. Je vais commencer par M. Trudel, parce que c'est vous qui avez appris, à un certain moment donné, que vous souffriez d'insuffisance rénale. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours en termes de santé, puis de ce que vous avez dû apprendre en lien avec la greffe éventuelle que vous avez reçue?
OK. Moi, d'abord, je suis porteur d'une maladie qui s'appelle les reins polycystiques. C'est une maladie génétique. Donc, ça arrive à la naissance parce que un des parents a ce problème-là. Ma mère avait ce problème-là. Elle en est décédée en 71, bien avant là, qu'il y ait des ressources. Alors, moi, j'ai appris que j'avais cette maladie-là. J'avais à peu près 37 ans. Je commence à avoir de l'hypertension, puis tout ça. Puis, en ayant le diagnostic, on a à peu près automatiquement le pronostic d'arriver à l'insuffisance rénale terminale. Donc, je suis arrivé à la dialyse, j'avais 60 ans, puis j'ai été greffé à 63 ans. Puis, j'ai d'abord bien réagi à la dialyse péritonéale pendant à peu près un an et demi. Par contre, à un moment donné, ça ne fonctionnait plus. Il était question de me transférer à l'hémodialyse. Il y a eu 2 chirurgies pour que je puisse arriver là. Ça n'a pas fonctionné pour créer l'entrée là, pour faire l'hémodialyse. Puis, ma femme m'avait offert, avant que je sois en dialyse, de donner un rein. Mais comme tout le monde, je craignais que sa santé puisse être altérée. Même si j'étais informé du contraire, il y avait comme une résistance là à dire oui à ça. Mais mon état de santé s'est finalement tellement détérioré que c'était une question peut-être même de vie ou de mort. Là. Et ma femme m'a dit à un moment donné, écoute, c'est maintenant ou jamais. Puis j'ai dit oui, parce que c'était vraiment
une question de vie ou de mort.
Oui.
Madame Rochette, c'est toute une décision d'accepter de perdre une partie de soi, de donner une partie de soi pour sauver votre mari. Qu'est-ce qui a motivé ça? Comment vous avez réussi à l'accepter, de faire quelque chose d'aussi important comme don?
C'est venu de façon naturelle parce que je savais que je voyais Louis qui se détériorait et avant même qu'il rentre en dialyse, pour moi, ça faisait partie de ma vie de pouvoir aider puis nous assurer aussi une meilleure qualité de vie. Puis, c'est ça, de façon spontanée. Finalement, moi, je me trouvais à attendre que Louis me donne le OK pour entreprendre la démarche. Parce que ce qu'il faut réaliser, ça paraît extraordinaire comme ça, mais quand on accompagne quelqu'un, par exemple un proche qui a le cancer, on se trouve en situation d'impuissance et on le regarde mourir. Puis j'avais vécu cette situation-là plusieurs reprises. C'est quand, pour moi, c'était évident que là, j'avais une possibilité de faire quelque chose, de sortir de l'impuissance, et je savais que ça, j'avais une bonne chance, une bonne qualité de vie après ça. Puis ça aussi, c'est tout un processus pour arriver à donner le rein. Je sais pas si j'embarque tout de suite là-dessus.
Vous pouvez y aller, oui. Ça a pris quoi comme étape, justement? Il y a des,
comme
j'imagine,
étape,
faut faire des examens, il faut s'assurer que ça soit en santé suffisante.
Oui, l'étape, le processus, c'est très, très, très important. Justement, il y a un désir. Louis aussi devait être respecté dans sa crainte. C'est qu'on a du temps au cours du processus pour s'acheminer vers le don. Et ce processus-là est vraiment très, très, très sérieux. Entre autres, c'est le donneur qui doit faire la première démarche pour dire « je suis intéressé ».
OK.
Pour qu'on ne sente pas de pression. Ensuite, le suivi, ça a duré dans mon cas 5 mois parce que c'est allé très bien, un peu exceptionnellement, jusqu'à savoir que je pouvais donner un rein. C'est que pendant tout ce temps-là, j'étais accompagnée par une infirmière précisément qui me dirigeait vers les services, vers les différents examens. J'ai subi vraiment beaucoup, beaucoup d'examens pour arriver à dire c'est correct, vous pouvez, votre rein peut être enlevé, vous allez être en bonne qualité de vie après ça. Et il y a aussi tout un suivi, je dirais, psychologique ou de cheminement qui, dans ce cas-là, c'est important qu'on soit en lien avec une infirmière régulière qui nous accompagne. On est vu par un psychiatre, travailleur social, tous les examens physiques possibles et imaginables, pas juste au niveau du rein, mais au niveau du système pour être sûr que j'en souffrirai pas par après. Et tranquillement, c'est ça, on chemine. Puis tous les deux, on avait pris l'entente de si à un moment donné, moi, je sens que je veux plus. Je vais dire non. Mais, et Louis avait le même contrat de dire non.
C'est ça, Mme Rochette, peut-être une question un peu indiscrète, mais je sais que l'amour a probablement pris toute la place dans cette démarche-là. Mais à aucune étape, vous vous êtes dit, là, je suis pas certaine.
Dans mon cas, non. Parce que j'ai une formation médicale à la base, là, okay. J'étais ergothérapeute. Ça fait que je pense qu'à chaque fois, je comprenais très bien ce qui se passait, puis même avant d'entreprendre la démarche. Et j'attendais, sérieusement, je me surveillais. Une des devoirs que je me donnais, moi, c'est d'être en contact avec ce qui allait monter. Et le non est jamais monté.
Jamais, jamais.
La peur.
Oui, OK.
Oui, des craintes. Quand vous parliez tantôt de la peur, j'avoue que c'est là. C'est pas si beau que ce que ça peut avoir l'air dans
non,
ce que je dis,
ça.
Là. Entre autres, je me souviens, une de mes nièces m'avait dit qu'elle avait regardé sur Internet comment la chirurgie se passait. Moi, je voulais pas voir ça.
Vous avez dû perdre connaissance avant. juste en y pensant.
Je savais assez ce qui se passait. J'avais pas besoin. Je pense que c'est important de pas nourrir
c'est
la
ça.
Peur. Mais c'est tellement plus grand tout ce qui se passe. Et encore une fois, on est tellement bien accompagnés. Les craintes, on n'a même pas le temps de les avoir que les choses sont expliquées. Fait que non, sérieusement, le nom est jamais monté et je vous dirais que je suis allée donner à Calgary. Juste avant l'intervention, il y a eu 3 médecins qui m'ont demandé, voulez-vous vraiment donner?
OK.
Avant 3 fois, puis l'anesthésiste finalement, est-ce que vous voulez vraiment donner? Et je sentais que je pouvais dire non. Même rendu à ce point-là, le respect était tel que je pouvais dire non.
Qu'est-ce qui a apaisé votre peur? Outre le fait d'aider votre mari?
Le cheminement. C'est quelque chose, la peur, c'est quelque chose qu'on apprivoise tranquillement, puis d'être en contact quand ça montait, puis ensuite d'aller voir. Puis un des barèmes que j'avais, c'est à chaque fois que je passais un examen, puis qu'il y en a eu plusieurs, ça c'était spécial, parce qu'après l'examen, tu peux soit apprendre que tu es malade, soit que tu peux continuer le processus. C'est qu'il y avait la joie de pouvoir continuer le processus. Mais à chaque fois, c'était une très grande joie qui montait de « Ah oui, on peut continuer », puis de pouvoir avoir une solution par rapport à la situation de Louis qui se détériorait. Pour moi, c'est un grand cadeau d'avoir pu faire ça. Il n'y a pas d'autre mot. Là.
Et vous avez fait un don croisé, hein, si j'ai bien compris. Ça consiste en quoi exactement, le don croisé? Peut-être Dr Charbonneau, peut-être vous l'expliquer?
Ouais, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, même fascinant. Bien entendu, un couple comme ça qui veut donner un rein, bien, il faut qu'il y ait une compatibilité essentiellement au niveau des groupes sanguins. Et c'était pas le cas de M. Trudel et Mme Rochette. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bien, il y a d'autres couples donneurs, receveurs, qui sont dans la même situation. Et donc, on peut faire une sorte de contrat. Moi, je donne le rein à l'autre et on fait un croisé comme ça.
Un échange à 3 équipes.
Il y a un programme pan-canadien. Vous imaginez, je reviens encore sur l'importance d'avoir les ressources, vous imaginez la coordination que ça prend, le travail. Mais oui, ça se fait. On appelle ça des chaînes de donneurs. Ça peut aller à plusieurs donneurs. Je pense que chez nous, au CHU de Québec, on a fait 6 ou 8 une chaîne de donneurs comme ça. Mais c'est pan-canadien. Mme Rochette a dû aller à Calgary pour le prélèvement.
Mais si quelqu'un décide à la toute fin de ne pas faire le processus, il arrive quoi?
C'est ça qui est le nœud de toute cette histoire-là. Ouais. Il faut vraiment que ça soit attaché très, très solidement. Alors, oui, il y a un certain risque, mais en général, les gens, quand ils sont rendus à cette étape-là, c'est rare qu'ils reculent à la dernière minute.
Monsieur Trudel, depuis votre greffe, ça va bien?
Oui, absolument. Qualité de vie retrouvée, beaucoup de possibilités d'activité. Comme avant, en fait, voyager. Non, il y a des choses dont je m'ennuie pas du tout. Là, la dialyse, les visites à l'hôpital, le manque d'énergie, etc. Alors, tout ça, c'est derrière.
C'est un second souffle.
Oui. On peut quand même pas dire que c'est un long fleuve tranquille, là, parce que ça demeure une maladie compensée par la greffe. Mais dans l'ensemble, les avantages l'ont toujours emporté sur les inconvénients.
Ça a tout changé. Puis, vu que vous avez fait un don croisé, est-ce que vous êtes en contact avec la personne, l'autre couple? Est-ce que vous êtes resté en contact ou vous n'avez aucune idée c'est qui?
Moi, je sais que c'est un homme qui est venu d'Edmonton. Et j'ai envoyé une carte de remerciement à cette personne-là par l'entremise des infirmières là, qui s'occupent de Transplant Québec. Et j'ai reçu une carte de cette personne-là qui disait à peu près comment elle était heureuse d'avoir pu contribuer à la remise en vie de plusieurs personnes, finalement. Parce que dans la chaîne, c'est beaucoup de personnes qui reçoivent, beaucoup de personnes qui donnent, beaucoup de familles qui retrouvent plus de liberté, plus de possibilités de choix. Ça fait que c'est grand, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Quelque chose qui dépasse un peu, oui,
oui, effectivement. C'est plus grand que nous autres, ce qui se passe là.
Madame Rochette, vous, le rétablissement après l'opération, malgré toutes les appréhensions, le cheminement, la peur, vous avez retrouvé une qualité de vie similaire avant l'opération?
Oui. Ah oui, ah oui. C'est un processus aussi. Mais oui, tu vois, dernièrement, à cet hiver, j'ai fait un projet humanitaire en Asie. Fait que ça, c'était le signe que vraiment, j'avais retrouvé mon énergie d'avant, puis là, comme avant.
Ben, c'est une très bonne nouvelle, puis c'est rassurant pour les gens qui éventuellement voudraient se lancer dans cette grande aventure-là.
Oui,
exactement. Le souhait, en fait, c'est que les gens mettent le pied dans l'aventure, puis soient accompagnés pour arriver à vivre quelque chose de très beau, qui est notre expérience, en fait.
En terminant, Dr Charbonneau, juste peut-être nous donner les informations. S'il y a des gens qui veulent plus de renseignements concernant cette pratique-là, sur le programme, sur la possibilité de devenir donneur éventuel, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, bien entendu, il y a l'organisme Québec Transplant. Il y a un site web. Il y a pas mal d'informations sur ce site. Vous pouvez téléphoner. Les gens vont vous renseigner. Alors, ça, je pense que c'est une bonne source d'informations. Chaque unité de transplantation au Québec fait du don vivant déjà. On espère l'augmenter, mais on s'en fait déjà. Alors, il y en a au CHUM, bien entendu, Maisonneuve-Rosemont, Sherbrooke, mais chez nous aussi, au CHU de Québec, au pavillon de l'Hôtel-Dieu, les gens sont là pour informer. Si on nous téléphone, on donne toutes les informations qui requises.
Docteur Charbonneau, merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à Louis Trudel et Louise Rochette pour leur beau témoignage. Donc, c'était sur le don vivant de rein. Je pense que c'est un témoignage qui est inspirant. Puis, merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin en studio.
Merci.
Merci à vous.
7h34.